Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il se succède à la barre avec souvent un maillot du PSG sur le dos. 36 personnes ont été condamnées depuis dimanche après les débordements qui ont émaillé la victoire du PSG en Ligue des Champions avec des peines pouvant aller jusqu'à de la prison ferme. La mise en examen d'un homme écroué pour enlèvement et séquestration dans la disparition de Leyana dans le Gers. On est toujours sans nouvelles de la collégienne de 11 ans ce matin. Et c'est la tradition avant une Coupe du Monde. La visite du président à l'équipe de France de foot au complet ce mardi à Clairefontaine.
Un Parisien qui soutient le PSG ne devrait pas faire ça.
La première réaction de Nasser El Khelaifi, le président du PSG, réagit aux débordements et aux violences qui ont suivi la victoire parisienne en Ligue des Champions. Samedi soir, près de 900 personnes ont été interpellées, un peu plus de la moitié placées en garde à vue. Pierre Bazin du service police-justice est avec nous ce matin. 11 personnes ont été jugées hier en comparution immédiate, Pierre, et les premières condamnations sont tombées.
Oui, 11 hommes hier âgés de 18 à 24 ans condamnés pour des faits allant de la détention de mortiers d'artifice à des violences sur des policiers. Sur les 11 hommes, certains ont écopé d'amendes, de travaux d'intérêt général et de peines de prison avec sursis. Seul l'un d'entre eux a été condamné à de la détention ferme, 6 mois au total. Il n'ira toutefois pas en prison. Sa peine sera aménagée sous la forme d'un bracelet électronique par exemple. Ce dernier est accusé d'avoir d'abord insulté les policiers, de s'être débattu lors de son interpellation en donnant des coups de pied. Lui a expliqué qu'il était alcoolisé le soir du match, mais qu'il ne comprenait pas les faits qu'on lui reprochait. Le tribunal a décidé de suivre les réquisitions du procureur de la République. Dans le box, certains sont grutiers dans Lyon, d'autres étudiants en Belgique. Tous ou presque sont de jeunes hommes au casier judiciaire vierge.
Les précisions ce matin de Pierre Bazin, service police-justice RMC. Le gouvernement de son côté rejette toute responsabilité dans les violences de samedi soir, évoquant un important dispositif de sécurité. 22 000 policiers et gendarmes étaient déployés sur le territoire. 178 ont été blessés. Témoignage ce matin de l'un des policiers mobilisés à Paris. Il décrit une scène de chaos face à des personnes qui n'étaient pas venues faire la fête.
Ils se dispersaient, ils revenaient, ils balançaient des feux d'artifice en l'air, après c'était sur nous. Ça a été tiré à bout portant sur nous. Hein. En fait, c'était un va-et-vient permanent. Quoi. Ils sont là pour casser. Hein. À partir du moment où ils sont cagoulés, on sait qu'ils sont pas là pour faire la fête. Ils sont là pour nous faire la fête à nous.
Témoignage RMC recueilli par Marion Gauthier. Il est 7h03, un père de famille de 41 ans, écroué, mis en examen à Florence dans le Gers pour enlèvement et séquestration. Il est suspecté d'être à l'origine de la disparition d'une amie de sa fille, Liana, aperçue pour la dernière fois dans la véhicule du suspect. La collégienne de 11 ans n'a plus donné signe de vie depuis vendredi et d'importants moyens restent mobilisés, Pierre Bourgès, pour tenter de la retrouver.
Au sud de Florence, les battues continuent dans la forêt. Les gendarmes avancent en ligne entre les ronces et les branches. Ces zones boisées particulièrement denses font l'objet de toutes les attentions, explique le colonel Phil de la Forcade.
Les bois, les forêts sont toujours quelque part des lieux de dissimulation possible, de cachette possible. Voilà, donc tous ces critères nous conduisent à faire des vérifications assez exhaustives hein, de ces zones particulières.
Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique survole la zone en appui. Plus loin, des plongeurs inspectent les cours d'eau aux alentours, mais aucune trace de la fillette brune aux yeux marrons. Les parents de Liana ont toujours espoir de retrouver leur fille, indique leur avocat François Rougeau de Boubet.
C'est tout ce qu'il leur reste. Ils ont la colère, bien sûr, de ne pas savoir, la tristesse de l'incompréhension, mais ils gardent un espoir sans faille.
Hier soir, une quarantaine de maires des communes alentours se sont également retrouvés lors d'une réunion pour tenter de faciliter les recherches sur leur territoire.
On vous en parlait hier, la loi post-Bétarame afin de mieux protéger les enfants contre les violences à l'école et dans le périscolaire adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale issue d'un compromis après la suppression de l'article visant à lever le secret de confession. Autre sujet sur la table des députés, ce mardi le cadmium avec une proposition de loi appelant à réduire le taux de ce métal lourd dans l'alimentation. Il est 7h05, vous écoutez RMC, reprise par ses salariés en 2024, Duralex a été placé en redressement judiciaire après une importante levée de fonds il y a 2 ans. On pensait la verrerie sauvée, mais les tensions de trésorerie demeurent, Lucas Laubert.
L'entreprise évoque des problèmes de stock avec notamment des ruptures sur des produits emblématiques, mais aussi l'envolée du coût des matières premières en début d'année. Résultat, des comptes dans le rouge. En mai, les salariés n'ont reçu que la moitié de leur salaire, une situation qu'ils sentaient venir, explique Pascal Sudre, secrétaire général de la CGT Loiret.
Depuis plusieurs semaines, il n'y avait pas beaucoup de travail, il n'y avait plus qu'une chaîne de production qui tournait sur les cinq.
En avril, le directeur général et le directeur financier avaient été mis à pied. Pascal Sudre compte sur la nouvelle direction pour redresser la barre.
Il faut vraiment qu'on ait une direction digne de ce nom qui soit là pour assurer et garantir l'activité d'aujourd'hui, mais surtout l'activité de demain.
Placée sous la protection du tribunal de commerce d'Orléans, la Verrerie va devoir rétablir ses comptes dans les 6 mois qui lui sont donnés. Pascal Delima est chef économiste au cabinet Nova Mind.
Si le redressement fonctionne, les emplois peuvent être préservés. Si la situation reste trop dégradée, il y a évidemment des restructurations qui doivent, dans ce cadre-là, être réenvisagées.
L'économiste prévient, pour ceux qui ont investi lors de la levée de fonds en 2025, rien ne garantit qu'ils pourront récupérer leur argent.
La tension qui s'accentue ce matin au Moyen-Orient, le Hezbollah revendique des attaques contre des cibles israéliennes dans le sud du Liban. L'État hébreu dit aussi avoir intercepté des projectiles en provenance du Liban. Inquiétude dans la région, alors que Donald Trump affirmait hier avoir obtenu des deux camps un accord de cessez-le-feu sur un tout autre front. L'Ukraine, à nouveau ciblée par la Russie cette nuit avec des blessés à Kiev dans l'est du pays. Une attaque a fait au moins 4 morts.
RMC 7h06, Emmanuel Macron est attendu à Clairefontaine ce midi.
C'est la traditionnelle visite du chef de l'État, 2 semaines du premier match du Mondial pour les Bleus, au complet avec l'arrivée ce mardi des finalistes de la Ligue des Champions, 5 Parisiens et 1 Gunners. William Saliba a touché au dos samedi soir, l'état de santé du défenseur d'Arsenal a inquiété, mais les nouvelles sont finalement plutôt rassurantes, Valentin Jamin.
Oui, William Saliba a bien joué les 120 minutes de la finale sans problème apparent et pourtant le défenseur a ressenti des douleurs au dos où il avait déjà été gêné ces derniers temps. Le joueur d'Arsenal a passé des examens hier, ses proches et le staff des Bleus ne montrent pas de grande inquiétude, mais ils seront vigilants car Saliba est très important. Titulaire lors du dernier Euro, il avait même fait partie de l'équipe type du tournoi. Il devrait être préservé au moins lors du premier match amical contre la Côte d'Ivoire jeudi, voire plus longtemps, mais rejoindra donc bien les autres Bleu aujourd'hui, tout comme les 5 Parisiens champions d'Europe, Doué, Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez et Dembélé. Tous vont rencontrer Emmanuel Macron qui vient rendre visite à l'équipe de France ce mardi midi.
Et justement, Dembélé, Doué, Zaïre-Emery et Barcola qui se sont offerts une dernière célébration. Hier, c'était à Roland-Garros, 2 jours après leur victoire en Ligue des Champions.
Voici la Ligue des Champions 2026.
Ovationné par le public, c'était les derniers Français à fouler la terre battue parisienne puisque cette année c'est terminé pour Diane Paris, balayée en 2-7. Elle ne verra pas les quarts de finale. Ça débute aujourd'hui avec un duel très attendu chez les hommes à vivre sur RMC et la radio digitale 100% terre battue. La révélation de ce tournoi, l'Espagnol Rafael Jodar face au 2e joueur mondial Alexander Zverev.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Laetitia est avec nous en direct, vous nous avez appelé au 3216 depuis la Haute-Loire. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Comment ça va Laetitia? Vous êtes restauratrice, c'est ça?
Tout à fait, Alors on est sur la commune d'Arolles, dans le 43, donc dans la Haute-Loire.
Et
on voulait réagir totalement
à ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, dites-nous.
Tout à fait. Ben, malheureusement, on voit des choses avec le sport, la convivialité et le partage et la commémoration. Et puis au final, après, ben, ça en finit, comme on a bien vu sur les vidéos et les images. Moi, je voulais savoir pourquoi on n'appelle pas, alors je sais que c'est pas forcément leur rôle, mais appeler les joueurs à demander au calme,
Complètement d'accord avec vous, Laetitia. Et c'est d'ailleurs ce que je disais hier matin, je sais pas si vous écoutiez hier matin, mais on avait Jean-Louis Tour. Et je lui disais, mais en fait, je comprends pas qu'il y ait pas un vrai net appel au calme. Alors, ils ont dit, il y a eu... Alors,
Nasser Al-Khelaifi... Après, je sais que c'est pas leur rôle, forcément.
Voilà, et puis, à Marquinhos qui a dit, soyez sages, Mais j'aurais aimé, moi, une vraie condamnation. C'est-à-dire que je trouve quand même qu'à un moment, quand ça prend cette dimension-là, quelque chose du genre, pas en notre nom, pas au nom du PSG.
Oui, bien sûr. Nom individuel, après, je voudrais savoir aussi pourquoi on n'utilise pas ces fameuses caméras qu'on nous fait payer en soi, en ville, par des millions d'euros, qu'on les utilise pas forcément en reconnaissance faciale ou autre, ou... Alors, on nous reconnaît bien pour un flash voiture, alors je vois pas pourquoi on nous reconnaîtrait pas
C'est vrai,
non,
c'est vrai.
Bon, après, j'avoue.
Ça, vu comme ça, c'est vrai. On l'utilise bien pour nous flasher. Non, ouais. Alors hier, sur BFM TV, j'ai reçu Laure Becchio, qui est la procureure de Paris, et elle disait que désormais, quand même, toutes les images étaient utilisées. Alors, c'est pas de la reconnaissance d'accord. faciale, au sens où oui, la reconnaissance faciale, il y a une sorte de plus grande rapidité à la lecture, et ça, pour l'instant, ça n'est pas autorisé. C'est ce que souhaite Bruno Retailleau,
aussi, ouais,
qui a dit hier qu'il voulait que la reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle soit utilisée pour les caméras, mais sans que ce soit de reconnaissance faciale à proprement parler, les caméras sont utilisées. Laure Becchio, elle disait, on a des images, ils regardent les policiers, on les a en plein visage sur les caméras, donc ça, c'est pas forcément ce qui montre d'ailleurs qu'il y aura d'autres arrestations. Il y a ceux qui sont arrêtés sur le vif, il y a eu quand même 890 interpellations, et puis il y a ceux qui seront arrêtés peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent, parce que précisément, il y a ce travail, parce qu'on retrouve leurs images, leurs visages, et qu'ensuite on va les chercher chez eux. Mais vous avez bien raison, Laetitia, cette question-là, en tout cas, elle est dans le débat, et c'est Bruno Retailleau, le premier hier, qui a dit, voilà, il faut utiliser la reconnaissance faciale. Merci Laetitia, en tout cas, d'être intervenue au 32-16, vous revenez quand vous voulez. Il est 7h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des rejets de métaux lourds dans nos assiettes. Les députés se penchent aujourd'hui sur la question du cadmium, le fameux cadmium. Bonjour docteur Pierre Souvet.
Oui, bonjour
Pauline.
Vous
êtes cardiologue, vous êtes président de l'association Santé Environnement France et vous êtes l'un des spécialistes du cadmium et de ses effets sur la santé. Nous avons mis beaucoup trop de temps à réagir. Voilà votre parti pris dans un instant et je vais surtout vous demander ce qu'il ne faut pas manger et ce qu'il nous reste à manger. J'aimerais que vous nous accompagniez vraiment dans notre quotidien. Vous nous le faites dans un instant. Ne bougez pas, il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC. Sorry, on va parler de ce qu'il y a dans nos assiettes et de ce qu'il faut y mettre ou pas. La limitation du cadmium arrive à l'Assemblée nationale. Bonjour docteur Pierre Souvet. Vous êtes cardiologue et président de l'association Santé Environnement France. Les députés vont donc débattre aujourd'hui de cette proposition de loi qui émane du groupe écologiste qui veut limiter l'exposition au cadmium qui est donc un métal lourd, toxique et qui est dans certains aliments. Pour vous, on a mis trop de temps à prendre conscience des enjeux sanitaires autour du cadmium ?
Oui, parce que ça fait 5 ans que notre agence sanitaire nationale a alerté sur la surcontamination des Français, particulièrement des enfants, d'un métal qui s'accumule dans notre organisme, en fait. Et donc, il est temps d'agir. Mais c'est vraiment une proposition, à mon sens, transpartisane, parce que vous soyez des enfants de famille qui votent à droite, à gauche ou au milieu, eh bien, vous êtes tous concernés. Et donc, il faut vraiment réduire cette contamination des Français et particulièrement des enfants.
Donc, il faut absolument, effectivement, pour vous, que cette proposition de loi aboutisse. Pourquoi la France et pourquoi les enfants français en particulier, il semble que nous soyons davantage exposés en France que nos voisins. Pourquoi ?
Oui, c'est que pour les enfants, c'est 3, 4, 5 fois plus que les enfants des pays similaires, Allemagne, États-Unis, Italie, etc. Parce que nous, on a utilisé des engrais pour l'agriculture traditionnelle, des engrais de phosphate, et dans ces gisements de phosphate, il peut y avoir plus ou moins de cadmium, donc ce métal toxique qui ne sert à rien dans l'organisme, et qui a été mis dans les sols. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il est dans les sols, puisque ces engrais sont trop riches, eh bien, il ne peut sortir majoritairement que par la plante, essentiellement les plantes racinaires, donc évidemment ciblées pommes de terre et tous les dérivés de céréales qui sont les plus contaminés. Enfin, en tout cas, les plus contributeurs, puisqu'on en mange beaucoup, à notre contamination.
Alors, il est expliqué aussi, semble-t-il, que ces engrais qu'on a utilisés arrivaient notamment du Maroc, où le métal est très présent dans le sol. Vous parlez des pommes de terre, spontanément, des plantes racinaires. Qu'est-ce qu'il faut limiter ? Alors, il faut limiter les engrais, évidemment, désormais, mais avant qu'on parle vraiment de ce qu'on peut manger ou pas manger, j'ai envie de dire, une fois que ces engrais, comme vous le dites, sont dans nos terres, comment s'en débarrasser ? C'est-à-dire, à combien de temps d'aujourd'hui est-ce qu'on peut espérer que ces terres ne soient plus toxiques ?
L'ANSES nous dit qu'il faudra des dizaines d'années. Et donc, il faut absolument que nous nous protégions en modifiant quelques habitudes alimentaires. Alors, je vous dis tout de suite, il y a des aliments, par exemple, où il y en a pas. Les fruits, il y en a pas. Alors, il peut y avoir des pesticides. Donc, essayez de privilégier le bio ou peler vos fruits. Les légumineuses, dont on n'en consomme pas assez. Les produits laitiers, les œufs. où il y en a, où il y en a quasiment pas. Enfin, il y en a toujours un petit peu. On peut pas échapper. Il faut vous dire que vous ne pouvez pas tomber à zéro, mais vous pouvez vraiment significativement réduire cette contamination avec les éléments dont on va parler là.
Mais est-ce qu'il faudrait interdire la culture? Pardon, d'aller jusqu'au bout de cette logique, mais si on vous écoute, ça veut dire que ce sont les terres elles-mêmes qui sont imprégnées. Est-ce qu'il faut arrêter la culture sur ces terres qui sont déjà imprégnées?
Alors, il faut trouver des systèmes agroécologiques pour limiter le flux, c'est-à-dire le passage du cadmium qui est dans le sol, qui est stocké dans le sol et qui va remonter dans la plante. Et donc, il y a des techniques, lutter contre l'acidité des sols ou enrichir le sol en matière organique, voire même trouver des variétés, par exemple, de céréales qui concentrent moins le cadmium, un petit peu comme la fève de chocolat qui le concentre particulièrement. Donc, il y a d'autres techniques qui pourraient limiter. Mais l'idée, c'est vraiment d'agir. On peut agir, on doit agir, nous, personnellement, sans attendre que nos députés ou le gouvernement fassent enfin le travail.
Les fèves de chocolat, vous venez d'en parler, on a compris que le chocolat a été particulièrement porteur de cadmium, en particulier, dit-on, le chocolat d'Amérique du Sud. Est-ce que ça veut dire que ce chocolat-là, il ne faut plus en consommer ?
En tout cas, il faut être avec modération, c'est que choisir qui avait fait l'étude. Là, c'est pas dû aux engrais, c'est dû au sol sud-américain qui sont riches en cadmium et la fève de
cacao. Mais pardon, je vais jusqu'au bout. Là, vous parlez des consommateurs et effectivement de protéger notre santé parce que le cadmium peut entraîner des maladies, peut entraîner des cancers du pancréas, des maladies rénales, des problèmes de fertilité. Mais est-ce que ça veut dire que vous dites à tous les agriculteurs, les cultivateurs de chocolat en Amérique du Sud, changez de métier?
En tout cas, que choisir nous dit que le chocolat d'origine africaine ou d'origine asiatique, où les sols sont moins riches en cadmium, sont moins contaminés. Donc si vous pouvez, vous essayez de privilégier ces chocolats-là.
Donc on mange pas de pommes de terre françaises.
Alors, c'est la question. En tout cas, il faut réduire tout ce qui est dérivé de pommes de terre. Si vous rajoutez...
Non mais pardon, docteur, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut encore manger des pommes de terre françaises?
Mais de toute façon,
d'après vous, est-ce que
vous
mangez encore des pommes de terre françaises?
Alors, moi, je mange des pommes de terre avec modération, beaucoup moins qu'avant, et bio, puisque dans le bio, une grande méta-analyse montre qu'en moyenne, c'est pas toujours le cas, mais en moyenne, il y a 48% de moins de cadmium dans les produits bio. Donc, en plus, c'est moins de résidus de pesticides et c'est plus d'éléments nutritifs. Mais je limite ma consommation de pommes de terre. Les pâtes, par exemple, c'est ciblé parce que c'est dérivé de céréales, mais quand je regarde les chiffres officiels, c'est quasiment trois fois moins de concentration de cadmium dans les pâtes par rapport aux pommes de terre. Même si là aussi, il faut être avec modération. Le pain, c'est moins que les pommes de terre, même si c'est un élément majeur. Si je résume, chez les enfants, c'est essentiellement les pommes de terre et les biscuits. C'est pour ça qu'il faut... Nous, on propose des alternatives aux biscuits systématiques au goûter ou au bol de céréales le matin au petit déjeuner. Donc, il y a des éléments, donc dérivés de céréales, biscuits, pommes de terre et dérivés, qu'il faut absolument modifier, réduire. Donc, on donne des alternatives, si vous voulez, on en parle maintenant.
Non, alors, malheureusement, pas maintenant, mais je recommande votre livre, Antitoxique, le guide des polluants cachés. C'est aux éditions Albin Michel. Et vous le dites, les fruits, donc parlons-en. Voilà, les fruits, par exemple, il n'y a pas de cadmium.
Si je peux finir... Au goûter, au lieu d'avoir le biscuit ou le bol de céréales, vous proposez un petit morceau de pain avec du fromage, un produit laitier, une compote, un fruit. Vous proposez autre chose. Pareil au petit déjeuner. C'est pas le bol de céréales systématique. C'est la petite tartine avec la compote sans sucre ajouté.
Et ça tombe
le
bien.
Le fruit, le produit laitier, évidemment.
Ça tombe bien, c'est l'heure du petit déjeuner. Merci beaucoup, docteur Pierre Souvet, d'avoir été en direct avec nous. Il est 7h21. Arthur Chevalier est entré dans ce studio. On va remonter le temps avec vous. Vous vous souvenez, tiens, de 98?
L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde.
Jacques Chirac, après la victoire des Bleus, le président, les présidents et le foot. Une longue histoire, Arthur.
Eh oui, Jacques Chirac, c'est celui qui a le plus utilisé le foot pour sa cote de popularité. Mais c'est loin d'être le premier, puisque ça fait plus d'un siècle que l'Élysée se mêle du ballon rond.
Vous nous le dites dans un instant. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes. Il est 7h22.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 sur RMC et RMC Story. On remonte le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, ce midi, Emmanuel Macron se rend à Clairefontaine pour déjeuner avec les joueurs de l'équipe de France avant leur départ pour la Coupe du Monde.
Et oui, des joueurs qui s'envoleront dans 8 jours pour les États-Unis à la visite du président de la République à Clairefontaine avant les grandes compétitions. C'est une tradition qui date de Jacques Chirac. Et c'est la première fois qu'il avait fait ça, c'était avant la Coupe du Monde 1998.
Alors quel est l'intérêt pour un président de la République de consacrer du temps au foot?
Bon, soyons clairs, Apolline, c'est un moyen de profiter de la puissance du football. C'est un sport tellement populaire que les chefs d'État veulent s'y associer pour que ça déteigne un peu sur eux. Et ça ne date pas d'hier, hein. Par exemple, vous savez que la tradition, c'est que chaque année, le président remette le trophée de la Coupe de France au vainqueur. Eh bien, cette tradition, Apolline, elle date de 1927, hein, donc il y a un siècle. Le premier président à avoir remis la Coupe de France, c'était Gaston Doumergue, sous la Troisième République, hein, une finale que l'OM avait remportée contre Quevilly.
Jacques Chirac s'est beaucoup impliqué dans le football.
Oui, même s'il n'y connaissait pas grand-chose, pour ainsi dire rien du tout, il arrivait à faire du foot une utilisation très politique. Et le cas le plus emblématique de ça, c'était lors de la finale de la Coupe de France de 2002. Les supporters s'étaient mis à siffler la Marseillaise, ce qui avait provoqué la colère de Chirac, qui avait immédiatement quitté les tribunes du Stade de France. Il avait ensuite exigé des excuses du président de la Fédération française de football devant le stade, au micro. Des excuses qu'il avait obtenues, après quoi Chirac a repris sa place.
Et un des plus grands fans de foot, c'était Nicolas Sarkozy.
Eh oui, bien sûr. Et il aimait tellement le foot, Nicolas Sarkozy, qu'il voulait même des joueurs de foot dans son gouvernement. Il avait par exemple proposé à Lilian Thuram de devenir ministre de la diversité, ce que Thuram avait refusé. Sarkozy, c'était aussi le président du scandale de Knysna, hein, en Afrique du Sud, quand les Bleus s'étaient mis en grève en pleine Coupe du Monde. Et Sarkozy s'était d'ailleurs beaucoup impliqué dans cette crise en demandant à sa ministre des Sports, Roselyne Bachelot, qui était sur place, d'intervenir directement. Au lendemain de l'élimination des Bleus en Afrique du Sud, il avait été jusqu'à recevoir Thierry Henry à l'Élysée. Une preuve de plus que le foot, Apolline, c'est un des domaines réservés du président.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Oh, bonjour.
Dans le face-à-face, tout à l'heure à 8h30, je reçois Raphaël Glucksmann.
Oui, Apolline, Raphaël Glucksmann qui poursuit sa tournée des grands médias pour annoncer qu'il sera peut-être candidat dans 3 mois. Bon courage pour tenir avec ça 25 minutes. Raphaël Glucksmann, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes candidat à la présidentielle.
Écoutez, il est encore trop tôt pour le dire. Moi, je viens parler de mes propositions pour 2027. Mais c'est pas pour autant que je suis candidat.
Oui, mais alors pourquoi donner des propositions pour 2027 si vous n'êtes pas candidat?
Parce que je serais peut-être candidat. C'est juste que j'ai pas fait mon choix. Je sais pas. Faut voir.
Et après, il va aller chez RTL, chez Fogiel. Bonjour, Raphaël Glucksmann.
Bonjour, monsieur Fogiel.
Alors, la présidentielle.
Eh bien,
Le midi sur BFM, ils vont devoir résumer tout ça. Et Raphaël Glucksmann qui a déclaré la présidentielle, pourquoi pas Alain Duhamel.
Oui, bon, ça va.
Il n'est pas tout seul. François Hollande aussi entretient le suspense. Il a déclaré, je cite, « Si je dois être candidat, ce sera en décembre. » Quel beau cadeau au pied du sapin. Hollande, il fallait pas. Non, il fallait pas. Non, t'as gardé le truc. Je suis sûr que c'est Julie Gaillet qui lui a suggéré de se présenter pour qu'il quitte un peu la maison, qu'elle soit tranquille. Parce qu'il est là. « Juju, viens, il y a affaire conclue qui commence. » François, pourquoi tu sors pas un peu? Tu sais que les gens, ils me disent dans la rue, pourquoi François, il se présente pas? La France a besoin de lui. Ah bon, ils disent ça? Ah oui, allez, va dehors. Va serrer des mains.
Oh, d'accord, d'accord.
Oh, salut Raphaël, tu te présentes, toi?
Ben, je sais pas.
Ben, moi non plus, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à attendre comme ça à gauche? Avec DSK, il y avait moins de préliminaires, hein, c'était plus rapide. Oh. Allez, rendez-vous avec Raphaël Glucksmann à
8h30.
Et on vous retrouve avant ça à 8h15. Il est 7h27, restez bien avec nous, à tout de suite. Merci d'avoir choisi RMC, 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Il nie les faits mais a dormi en prison. L'homme soupçonné d'avoir enlevé Liana, 11 ans, dans leur Gers, a été mis en examen et écroué hier soir. Toujours aucune trace de la collégienne. Tous les fauteurs de troubles de la victoire du Paris Saint-Germain jugés hier soir sont ressortis libres. Entre relax, sursis et bracelet électronique, vous entendrez le soulagement du père de l'un d'entre eux. Et puis cette annonce surprise hier, 2 Français dont Thomas Pesquet iront dans l'espace prochain.
Le suspect de l'enlèvement de Liana a passé sa première nuit en prison.
Ce père d'une amie de la collégienne du Gers mis en examen. La jeune fille de 11 ans est toujours introuvable dans les environs de Fleurance où les gendarmes ont sondé les rivières et les lacs. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct de Montestruc sur Gers pour RMC. C'est là qu'habite celui sur qui se portent les soupçons mais qui nie les faits.
Oui, c'est ça, Victor. Il est resté silencieux devant le juge. Il a nié les faits devant les gendarmes en garde à vue pendant 48 heures. Cet homme sans emploi n'a pas de casier judiciaire, mais pourtant, cet agent polyvalent dans des établissements scolaires a été remercié dans l'un d'entre eux en 2021 pour un comportement jugé inapproprié sur une élève, une lycéenne, car il lui avait adressé des messages insistants sur les réseaux sociaux. Ici, les voisins dans cette commune connaissent très peu cet homme, pas très bavard. C'est une famille qui était très discrète, qui se tenait à l'écart. Les enquêteurs maintenant de la section de recherche de Toulouse tentent de savoir ce qu'il s'est réellement passé vendredi après-midi entre 15h et 17h. 15h parce que c'est le moment où il prend Liana à bord de son véhicule, destination la piscine. 17h, c'est le moment où il réapparaît devant le collège pour récupérer cette fois sa propre fille. D'ailleurs, cette voiture est passée au peigne fin par les enquêteurs parce que évidemment, ils sont à la recherche du moindre indice.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Montestruc sur Gers pour RMC et dans le journal de 8h. Nous serons cette fois donc à Fleurance, la ville de la jeune Liana. La justice s'attaque aux casseurs du soir de la victoire du Paris Saint-Germain. Les premières peines issues des comparutions immédiates sont tombées. Ils ont pu être jugés à Paris jusque tard hier soir. La plupart condamnés à du sursis et à des amendes. Aucun n'ira donc en prison. Comme Théo, 24 ans, 10 mois avec sursis pour violence sur policiers et détention d'engins explosifs. Écoutez la réaction de son père au micro RMC de Julie Brault.
On peut faire la fête sans amener de projectiles, sans amener de choses interdites. Voilà, ils l'ont très bien expliqué à Théo. On lui avait dit aussi, hein, de base, on lui avait dit de pas y aller parce que ça servait à rien d'y aller après le match. Il a voulu y aller quand même. Puis voilà, il a pas eu de chance. D'un autre côté, il a eu de la chance quand même parce que il fait pas de prison. C'est sa première. Ça lui sert de leçon. Et puis à l'avenir, il fera attention. Enfin, il avait les larmes aux yeux, ça se voyait. Et puis voilà, il a compris la chose et puis, encore une fois, ça sert de leçon.
Et il ne manquait pas à 7h40, juste après votre journal, Victor, un magistrat, le président de l'Union syndicale des magistrats, qui répondra à toutes mes questions sur ces peines et sur le fait que la justice semble faire moins peur qu'avant. Mais on fera surtout le point aussi sur toutes les premières peines qui ont donc été prononcées hier avec Pierre Bazin.
Au Moyen-Orient, le silence des armes voulu par Donald Trump n'a pas été respecté. Le Hezbollah revendique des attaques contre des cibles israéliennes dans le sud du Liban. Le président américain avait assuré dans la soirée que les deux camps avaient convenu d'arrêter de se tirer dessus. Deux Français dans l'espace l'année prochaine. Annonce surprise d'Emmanuel Macron hier en marge du sommet des investisseurs étrangers Choose France. Et pour cause, c'est le fruit d'un accord avec Vast, une entreprise américaine. Cassandre Bro, il y a une figure bien connue, c'est Thomas Pesquet. Et une autre un peu moins, Arnaud Prost.
Oui, avec un vol inédit pour sa première mission spatiale, Arnaud Prost va voler à bord de la station Haven 1 de l'entreprise américaine Vast. C'est un vol d'essai, le premier pour ce nouvel engin spatial. Cette mission sera aussi la première mission habitée vers une station privée. Pour Thomas Pesquet, ce sera son troisième vol dans l'espace. Il va à nouveau se rendre vers l'ISS, la station spatiale internationale. Ces deux missions de 2 semaines chacune seront consacrées à des activités scientifiques et des démonstrations technologiques. Et avec Sophie Fiadno, qui est toujours en mission à bord de l'ISS. La France va devenir le pays européen à avoir le plus d'astronautes en activité en 2027.
Astronaute, c'est peut-être le rêve de votre adolescence. Ça commence par l'étape d'aujourd'hui. Les premiers résultats de Parcoursup vont tomber à 19h. Ils vont savoir si leurs vœux d'orientation sont acceptés sous condition ou alors refusés.
7h35, il n'y a plus aucun Français en lice à Roland-Garros.
Diane Paris a été éliminée en 8e de finale par la Polonaise, 114e mondiale Maja Chwalinska. Aujourd'hui, c'est le début des quarts de finale. Dans l'hécatombe des têtes de série, numéro 2 allemand Zverev aura fort à faire. Il affronte à 14h la nouvelle sensation du tennis espagnol, Rafael Rodar, 19 ans, est déjà en deuxième semaine pour sa première participation porte d'Auteuil, Léna Marjac.
Oui, à l'instar de Diane Paris, 23 ans, qui a pour la première fois disputé un huitième de finale en Grand Chelem. Lundi prochain, elle sera la nouvelle numéro 1 tricolore.
Il y a un mois, si on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais signé. Donc il y a quand même beaucoup de positifs, beaucoup de bonnes choses. Il faut que j'essaie de m'appuyer là-dessus, que les résultats continuent.
Chez les messieurs, après le forfait d'Arthur Fils, c'est Moïse Kouamé, 17 ans, qui a marqué les esprits. Pour Joe Wilfried Tsonga, ancien numéro 1 français, la relève semble assurée.
Ils sont tous prometteurs. On espère qu'ils vont continuer de progresser et pouvoir... créer des bons moments ici à Roland-Garros pour les gens qui aiment ça.
Des promesses, mais un goût d'inachevé pour Arnaud Clément, ancien numéro 10 mondial. Deux Français seulement au troisième tour et désormais 10 ans d'absence pour les messieurs en quart de finale.
On a envie de mieux, on a quand même des jeunes qui sont super intéressants. Mais c'est vrai que pour le Roland de cette année, on reste peut-être un petit peu sur notre fin quand même, même s'il y a eu quelques belles choses à observer.
Place maintenant à la saison sur herbe pour les Français avec le tournoi de Wimbledon qui débutera le lundi 29 juin.
Ah, vous l'avez compris, c'était Julien Taxis sur ce bilan et ces Français dont plus aucun ne se retrouve en lice. Porte d'Auteuil, tiens, duel de genoux pour l'autre quart de finale messieurs du jour. Le Tchèque Jakub Mencik, 20 ans, face au Brésilien Joao Fonseca, 19 ans. Tout ça à suivre évidemment sur la radio digitale RMC 100% terre battue.
Et puis le quintet, c'est à Saint-Cloud aujourd'hui.
Départ 13h55. Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 8, Aviasor. Son outsider, le numéro 3, Another Light. Le 8 et le 3.
C'était le journal de Victor Pochet. Il est 7h37.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Première condamnation hier après les violences de ce week-end lors de la victoire du PSG. Une quarantaine de personnes devant la justice. La plus lourde peine, 6 mois de prison ferme, aménageable. Un autre individu, 19 ans, récidiviste, a lui été condamné à 4 mois de prison avec sursis seulement. Bonjour Ludovic Friat.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats. On va avec vous décortiquer ces premières peines et les peines encourues. Vous nous dites dans un instant comment on peut les expliquer. Et puis je vous attends, vous, au 32-16 qui nous écoutez. Appelez-nous pour nous dire comment vous réagissez à ces premières peines de prison et aux peines encourues. Après ces 890 interpellations, je vous rappelle ce chiffre. Il est 7h38.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h41 sur RMC et sur RMC Story. Après les violences de samedi soir, les premières décisions de justice hier. Bonjour Ludovic Friat, vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats.
Bonjour.
Vous êtes premier vice-président adjoint au tribunal de Paris. Avec vous, dans un instant, on va voir quelles sont les portées des peines qui ont donc été prononcées hier. Mais pour le savoir, je me tourne vers vous, Pierre Bazin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice d'RMC. Une quarantaine de personnes ont donc été présentées à la justice. Première comparution immédiate hier, quel premier bilan ?
Eh bien d'abord, il y a les 26 personnes qui ont été condamnées via une procédure rapide. Ça s'appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce sont des gardés à vue qui ont rapidement reconnu les faits qu'on leur reprochait. Et là, c'est le procureur qui est à l'initiative des peines. Depuis dimanche, la plus lourde prononcée, c'est 10 mois de prison ferme sous bracelet. Et puis, vous l'avez dit, hier, il y a eu les premières comparutions immédiates. 11 au total, avec des hommes condamnés à des peines d'amende, des travaux d'intérêt général et de la prison avec sursis. Seul l'un d'eux écope de 6 mois ferme. Là aussi, la peine, elle sera aménagée. Parmi les autres condamnés hier, l'un d'eux se trouvait en état de récidive, sanctionné en septembre 2025 pour des faits similaires. Attention à Pauline, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'hier, la justice n'a pas forcément jugé les affaires les plus graves, bien au contraire.
C'est au contraire celles qui sont les plus faciles, j'allais dire, à juger et les plus immédiates, qui demandent le moins d'enquête. Est-ce qu'on a un bilan, puisque évidemment, on est un an après la précédente Ligue des Champions, on est un an après des faits qui étaient tout à fait comparables. Est-ce qu'un an après, on sait, parmi tous ceux qui avaient été d'abord arrêtés, puis en garde à vue, puis jugés, quelles sont les peines finalement prononcées ?
Eh bien non, on n'a pas de chiffres.
On ne sait pas.
On ne sait pas, puisque le ministère de la Justice n'a pas tenu les comptes. Impossible d'être exhaustif dans la réponse qu'on va vous apporter. La seule chose qu'on sait, c'est à partir de ce que RMC a recensé. Lorsqu'on a couvert l'année dernière les 3 jours de comparution immédiate, une trentaine d'affaires au total, avec à la clé 5 condamnation à de la prison ferme. Mais là encore, il faut apporter une nuance. Les affaires les plus graves n'ont pas été jugées en comparution immédiate, mais plusieurs mois après les faits. Il est fort probable que des peines bien plus lourdes aient été prononcées lors de ces audiences. mais c'est très difficile d'avoir un suivi.
Merci Pierre Bazin. Ludovic Fria, les magistrats, le parquet, vous ne tenez pas les comptes, vous ne faites pas le point un an après ?
Le ministère ne tient pas le compte. C'est assez différent des magistrats, du siège ou du parquet. Bien évidemment, des comptes sont tenus, mais la réalité, c'est que notre ministère est assez défaillant en matière informatique, collecte de la donnée et centralisation des données. On est là. Mais on en est là, oui, enfin c'est pas faute de le dire. Effectivement, on a malheureusement notre ministère, une informatique qui est pas à la hauteur de la tâche qu'il y a.
Vous ne vous êtes pas dit les uns les autres, bon, c'est important malgré tout, aujourd'hui aussi, pour que l'on comprenne le fonctionnement de la justice, il y a, je sais pas, 260 gardés à vue. Un an après, on en est où? Combien ont été jugés? À quel type de peine? On ne sait pas. Un an après les mêmes faits il y a un an, on ne sait pas.
Mais j'en rêve. Il faut savoir que dans notre travail quotidien, l'informatique dans le ministère est souvent pas une aide, mais souvent un irritant majeur. On en tire les conséquences.
On fait, nous, notre travail, effectivement, de journaliste, mais on n'a pas forcément accès à l'ensemble des données. C'est quand même assez saisissant. Prenons alors donc ce que l'on sait, c'est-à-dire les premières comparutions d'hier, et le cas, par exemple, de celui qui était en récidive. Pierre nous le disait à l'instant, il s'agit d'un jeune homme, 19 ans, Ibrahima, récidiviste, puisqu'il a donc été condamné en 2025 pour détention d'armes de catégorie D. Couteau en l'occurrence, et condamné déjà l'année précédente en 2024, et là c'était pour trafic de stupes. Le parquet a requis 4 mois de prison ferme et 3 000 € d'amende, mais à la fin il a été déclaré coupable de détention de produits explosifs, d'attroupement en vue de commettre des violences, et il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Quand on est en récidive, est-ce que c'est suffisant ?
Alors, l'exercice auquel vous me conviez est toujours difficile. Je n'étais pas à l'audience, je ne sais pas effectivement ce qui a été requis, vous me le dites, je ne sais pas ce qui a été plaidé. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que la justice s'est mise en ordre de marche, en ordre de bataille, pour traiter ces violences qui sont d'un volume extraordinaire. Tant le parquet, pour effectivement traiter ces dossiers, les trier, les orienter, que le siège du tribunal de Paris, puisque des audiences supplémentaires de comparution immédiate, des audiences supplémentaires de CRPC, c'est-à-dire de plaider coupable, ont été organisées. Elles sont en train de se tenir, elles vont continuer à se tenir, et c'est une bonne chose. La justice fait son travail et elle va pas s'arrêter à ces 3 jours-là. Il y a beaucoup de dossiers qui sont des dossiers beaucoup plus graves. Il y a des violences très graves qui ont été commises à cette occasion-là, qui vont faire des ouvertures d'informations judiciaires et qui vont se juger dans les semaines et mois qui viennent. Il faut que les gens sachent que ceux qui participent à ces infractions, il y aura une réponse judiciaire. Cette réponse judiciaire prendra le temps qu'il faudra, mais elle sera apportée.
Laetitia, qui nous appelait tout à l'heure de Haute-Loire, disait « Mais je ne comprends pas pourquoi on nous met des caméras partout et on a l'impression qu'elles ne sont pas utilisées, en tout cas pas pour la reconnaissance faciale. » C'est ce que demandent un certain nombre désormais de politiques qui disent « Bah en fait, ça permettrait justement d'arrêter aussi ceux qu'on n'a pas réussi à arrêter sur le moment. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, ces caméras sont largement exploitées, puisque effectivement, c'est un moyen de preuve qui est devenu fondamental et central. La reconnaissance faciale, c'est pour le coup un réel choix de société qui dépasse effectivement ma place de magistrat et syndicaliste magistrat. Enfin, il y a des pays comme la Chine, pour pas la nommer, qui ont poussé très loin la reconnaissance faciale.
Oui, c'est pas forcément un modèle.
Ça veut dire que quelque part, mais c'est un choix de société, c'est le pacte social. Vous renoncez à beaucoup de liberté puisque vous êtes effectivement suivi. Quelque part, certains journalistes vous diraient fliqué au quotidien, dans tous les actes de votre vie quotidienne. Alors,
donc là, les caméras, expliquez-nous, quand vous dites elles sont utilisées, ça veut dire que en réalité, elles sont exploitées a posteriori, analysées. Laure Becquiot, que je recevais hier sur BFM TV, la procureure de Paris, me disait, on a les visages, on les voit, et ils seront poursuivis. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on analyse, on cherche, on mène une enquête et on va les chercher chez eux ?
C'est un travail de fourmi. Regardez.
Si l'intelligence artificielle vous permettait d'aller plus vite.
Alors, l'intelligence artificielle nous permettrait sans doute d'aller plus vite en croisant effectivement les fichiers des gens qu'on connaît avec les images. Oui, ça c'est certain. Après, la reconnaissance faciale, c'est effectivement systématiquement, en temps réel, savoir qui est où. Là, on va peut-être un peu loin. Il y a d'autres choses qui sont proposées, notamment effectivement des algorithmes pour analyser les mouvements de foule. On sait que l'intelligence artificielle peut nous aider à anticiper tel mouvement de foule ou telles attaques.
Ludovic Friat, je voudrais que vous puissiez accueillir aussi la parole de Jean-Pierre qui nous appelle de l'Hérault au 32-16. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Vous êtes commercial à Frontignan. Vous vous interrogiez précisément sur le rôle de la justice et est-ce qu'elle fait encore peur ?
J'ai l'impression qu'elle fait plus peur parce que malheureusement, ce qui est arrivé à encore samedi soir après la finale, je veux pas dire que c'était prévisible, mais enfin beaucoup de gens pensaient que ça allait arriver, et qui gagnent ou qui perdent. Malheureusement, aujourd'hui, c'est même plus une question de victoire ou de défaite, c'est voilà, il faut casser pour casser quoi. Et j'ai l'impression moi que la justice derrière, ben effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est fait et que c'est des contribuables ben, comme tout le monde qui devront payer ce genre de choses. Donc les sanctions de la prison ou autre, je sais même pas si ça fait peur aux gens, je suis même pas sûr. Par contre, peut-être que de toucher au portefeuille de ces gens-là, voire des familles, parce que quand on voit qu'il y a un gamin de 14 ans quand même qui était dans la rue et qui a été arrêté, les parents ils sont où?
Le plus jeune, en effet, des mineurs qui ont été arrêtés à 14 ans, comme vous le dites, Jean-Pierre. Je pose la question tout de suite à Ludovic Piat. Est-ce qu'il faut un système « tu casses, tu payes » ?
On a déjà largement un système « tu casses, tu payes ». Il existe. Après, il faut voir aussi à qui on s'adresse. On parle le cas du mineur.
Il existe, mais il est très rarement mis en application.
Oui, mais alors pour le coup, souvent, c'est pas nécessairement la responsabilité de la justice. Enfin, on le voit bien pour notamment les amendes délictuelles.
20%
on a un taux de recouvrement très bas, parce que à la fois, on s'adresse à un public qui n'a pas forcément les moyens de les payer. Hein. Enfin, souvent, l'amende, ça embête qui ? Ça embête vous et moi, les gens qui ont une situation. Ceux qui n'ont pas de situation, c'est difficile de raser un œuf. L'autre chose, c'est que ça coûte très cher d'aller récupérer ces sommes-là. Ça coûte quasiment plus cher de récupérer ces sommes-là que de les
peut y renoncer, oui. Mais certains disent, certes, ils n'ont pas forcément l'argent sur leur compte, mais on peut le ponctionner sur les allocations.
On peut sans doute le ponctionner sur les allocations. Après, c'est toujours une problématique d'avoir une espèce de responsabilité collective. Quand les gens sont mineurs, de toute façon, la règle pour les mineurs,
c'est que les parents sont responsables des faits commis par mineurs. Quand on casse et qu'on tape, c'est une responsabilité collective.
On retombe dans la loi, quelque part, anti-casseur des années 70. Est-ce que c'est le choix du législateur? Je le lui laisse. Mais il faut quand même comprendre que la justice ne fait pas rien. Enfin, on a quand même, par exemple, quelqu'un qui a été déféré en comparution immédiate. La comparution immédiate, c'est une réponse ferme, qui n'avait pas de casier judiciaire et qui est parti directement en prison à l'issue de sa garde à vue et de sa présentation pour 6 mois. Donc ce n'est pas rien. Ça montre bien que la justice, si vous voulez, fait son travail en individualisant les peines. Je comprends que de l'extérieur, ça soit peu visible, peu compréhensible, mais heureusement, on est dans une démocratie en France, je veux dire par là, il y a le débat judiciaire qui passe, les avocats parlent, le procureur parle, la défense s'exprime, et après, on a un résultat.
Merci beaucoup Ludovic Friat d'avoir répondu à mes questions. Premier vice-président adjoint au tribunal de Paris et président de l'Union syndicale des magistrats, et merci aussi bien sûr à Pierre Bazin d'avoir fait le point avec nous 7h52. Cécile Duflo, la voix de gauche, parce que c'est mardi. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, une primaire, un chef qui se détacherait naturellement, ou alors l'idée de faire son confiance au sondage. Quelle méthode vous préférez pour trouver le candidat idéal ?
En tout cas, pas les sondages qui sont une drogue. Il faut envoyer les politiques et peut-être aussi les journalistes en cure de désintox.
Vous nous le dites dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche. Mais d'abord le bonus. Mathieu, l'info qui a sans doute ravi les fans de Céline Dion.
Mais après le raz-de-marée provoqué par l'annonce de son retour sur scène, la chanteuse québécoise ajoute 10 nouvelles dates à Paris, la Défense Arena en mai 2027 pour mieux répondre, je cite, à une demande sans précédent. Au total, ce sont 330 000 billets supplémentaires qui sont mis en vente. Alors attention, la vente sera réservée aux personnes déjà inscrites sur les ventes précédentes. Ça commence demain 10h sur le site de Céline Dion, jeudi sur celui de la Défense Arena. Faut dire que l'engouement est spectaculaire. Les 16 premiers concerts annoncés à Paris entre septembre et octobre prochain, c'était plus de 500 000 billets vendus en quelques heures seulement. Un record pour la salle. À 58 ans, Céline Dion confirme ainsi son grand retour après des années marquées par des problèmes de santé. Retour sur scène et retour dans nos oreilles avec le titre « Dansons » écrit par Goldman et sorti au mois d'avril.
Ton sang pourrait y rester droit.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
7h54, c'est mardi, c'est la voix de gauche, c'est Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment choisir son candidat pour la prochaine présidentielle? Chaque parti s'interroge en ce moment. Il y en a qui plaident pour une primaire, d'autres comme Raphaël Glucksmann, qui sera mon invité à 8h30, qui se donne 3 mois pour voir si sa candidature fonctionne dans les sondages. Pour vous, Cécile, ça c'est l'erreur.
Ben en fait, les politiques sont devenus totalement accros aux sondages. Ils réfléchissent par rapport à ça. Ils ont une dose le matin, un shoot le soir, un nouveau baromètre, une cote de popularité. Il y en a qui regardent leur cote d'avenir comme ils regardent leur fréquence cardiaque sur leur monde connecté. Et le problème, c'est pas l'existence des sondages. Ça, finalement, c'est assez normal. Le problème, c'est que c'est devenu un outil de pilotage au lieu d'être ce que c'est, un outil d'observation. Et si on commence à gouverner une démocratie uniquement à partir des tableaux de bord et des sondages, on se trompe.
Vous pensez pas que ça peut être utile quand même ?
Si, c'est utile. Comme je disais, c'est une photographie de l'opinion à un instant donné. Ça peut donner à voir des inquiétudes, des tendances, des évolutions. Mais là, le problème, c'est que cette photographie devient une sorte de GPS et de conduite à prendre. Et quand on gouverne plus selon une vision, ses convictions, un projet, mais qu'on est suspendu à aux résultats des sondages et à l'oreille des sondeurs, eh ben on se trompe. Et d'ailleurs, les sondages, c'est pas des outils de précision. On sait bien, et les sondeurs le savent, qu'il y a aussi l'instinct, la main des gens qui le font. Moi, je fais pas du tout partie des gens qui pensent que les sondages sont bidouillés. En revanche, ils se trompent souvent et c'est normal.
Vous avez des exemples ?
Bah, de sondages qui se trompent, oui, il y en a plein. Le Brexit en 2016, les marchés, les partis, les commentateurs tombent des nues lors du résultat. L'élection de Donald Trump en 2016, on est beaucoup à s'être couché avec la victoire d'Hillary Clinton. La primaire de la droite en 2016, même les dernières législatives, ça arrive souvent.
Mais alors pourquoi les politiques deviennent accros ?
Eh bien, je pense que c'est un peu des doudous. Les sondages, ça rassure. En fait, ils donnent l'impression qu'on peut mesurer l'opinion, qu'elle est prévisible, contrôlable. Or, c'est précisément l'inverse, la politique. L'opinion bouge, les gens hésitent, ils changent d'avis. Ils peuvent même répondre une chose au téléphone et en voter une autre dans l'Isle-de-Loire. Les sondages, en fait, ça donne l'illusion de la certitude, là où, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et la meilleure preuve, c'est pas la politique, c'est les yaourts. On dit souvent, ah bah, faut pas utiliser les sondages parce que les hommes politiques, c'est pas des yaourts. Mais pour lancer un yaourt, on fait plein de sondages. On dépense beaucoup d'argent, en général, des centaines de milliers d'euros, parfois des millions, pour faire des tests consommateurs, des tests de concept, de packaging, de prix.
Ça s'appelle
et
le marketing, quoi.
Exactement. Et pourtant, sur 100 nouveaux produits qui sont lancés chaque année, il y en a les trois quarts, 75, qui disparaissent très rapidement. Pourtant, ils avaient tous remporté les tests haut la main. Donc, si ça marchait vraiment, bah en fait tous ces produits,
bon,
ils devraient
être
en public. Eh ben, on fait autrement, c'est-à-dire qu'on essaye de remettre les choses dans le bon ordre. Pourquoi on est candidat à une élection et à fortiori à la présidentielle? Parce qu'on a des convictions, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a un projet. Et autour de ça, on essaye de le faire largement partager. Donc on remet les choses dans le bon sens. On met du courage aussi, un peu de conviction, ça je l'ai dit, mais aussi de l'intelligence. L'intelligence, c'est se dire que tout le monde ne peut pas être candidat à la présidentielle. Il y a une espèce aussi de folie qui s'est emparée des personnes où si vous n'êtes pas candidat à présidentiel, vous n'existez pas. Et d'ailleurs, c'est un peu vrai, parce que comme ça, on a une invitation chez Apolline de Malherbe pour déclarer sa candidature. Donc, il faut essayer de remettre les choses dans l'ordre, de se dire aussi peut-être que cette élection, les Français vont peut-être vouloir avoir quelque chose de moins qu'un individu tout seul. D'ailleurs, on voit bien que personne n'est fan de qui que ce soit, mais une logique d'équipe. Et quand on a une logique d'équipe, on arrive aussi, normalement, à désigner un candidat qui fait, si ce n'est consensus, mais au moins qui rassemble tous ceux qui partagent un projet ensemble et des convictions pour le pays.
Mon idée est qu'on en reparlera.
On en reparlera. Avec plaisir.
Qu'on aura le temps d'en reparler, mais au moins vous avez posé le décor. Merci Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC, demain la voix de droite. Louis Sarkozy, il est 7h58, on se retrouve dans un instant avec la météo et le journal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.